J'ai préparé quelque chose qui va peut-être vous surprendre ce matin, parce que c'est pas des sujets qu'on aborde assez régulièrement. J'ai dit, bon allez, je me jette, j'y vais. Pour une fois, je suis un sujet libre et j'ai décidé de développer un thème qui finalement, et c'est dommage, hein, n'est pas abordé très souvent, celui de la fin des temps. On en parle peu. Vision sur la fin des temps. Et j'ai tiré ce partage du livre d'Ésaïe au chapitre 24. Alors avant de le lire, il faut savoir que les chapitres 24 à 27 d'Ésaïe sont souvent appelés l'Apocalypse d'Ésaïe. Les chapitres 1 à 12 d'Ésaïe, il est question d'Emmanuel, Dieu avec nous. Et essentiellement des citoyens de Jérusalem et des habitants de Juda. Les chapitres 13 à 23, c'est-à-dire les oracles, élargissent le cadre pour envisager les desseins de Dieu pour les pays avoisinants. Ici, dans la troisième unité, les chapitres 24 à 27, la vision du prophète s'étend. Il considère de manière, on va dire, les manières dont la volonté de l'Éternel va s'accomplir dans le monde entier. Les chapitres 24 à 27 contiennent des textes qui alternent entre le jugement et la restauration à venir dans les derniers jours, lorsque Dieu triomphera des forces du mal. On va le lire. Voici que l'Éternel dévaste la terre et les peuples et la dépeuple. Alors, ce n'est pas un texte qu'on a l'habitude de lire, enfin d'étudier même le dimanche, parce que c'est quand même assez violent, on va dire. Hein. Mais en même temps, bon, c'est dans la Bible. Hein. Voilà. Il en est du sacrificateur. Non, il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur, la terre est complètement dévastée, totalement pillée. Car l'Éternel a prononcé cette parole, la terre est dans le deuil épuisé. Le monde épuisé dépérit. Ils dépérissent les gens haut placés de la terre. La terre a été profanée par ses habitants. Car ils enfreignent les lois, altèrent les prescriptions, ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore la terre et ses habitants en portent la culpabilité. C'est pourquoi les habitants de la terre sont consumés et il ne reste qu'un petit nombre d'hommes. Le vin doux est en deuil, la vigne dépérit. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. L'allégresse des tambourins a cessé, le bruit des amusements a pris fin, l'allégresse de la cithare a cessé, on ne boit plus de vin en chantant, les liqueurs sont amères aux buveurs, la ville désertée est démolie. Toutes les maisons sont fermées, on n'y entre plus, on crie plus dans les rues parce que le vin manque. Toute la joie s'est assombrie, l'allégresse est bannie du pays, la dévastation est restée dans la ville, car il en est dans le pays, au milieu des peuples, comme lors du gaulage de l'olivier, comme lors du grappillage quand la vendange est finie. Mais ceux-ci élèvent leur voix. Ils poussent des acclamations. De l'ouest, ils poussent des cris de joie, en l'honneur de l'Éternel. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière, le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. De l'extrémité de la terre, nous entendons des chants. Honneur aux justes. Mais moi, je dis, je suis perdu. Je suis perdu. Malheur à moi. Des traîtres trahissent. Trahison, des traîtres trahissent. La frayeur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant de la terre. Celui qui fuit au fracas de la frayeur tombe dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse est pris au filet. Car les écluses d'en haut s'ouvrent, et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre se fissure, la terre craque, la terre est secouée, la terre titube comme titube l'ivrogne. Elle vacille comme une cabane. Son crime pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. En ce jour-là, l'Éternel châtiera là-haut l'armée d'en haut. Et sur la terre, les rois de la terre. On les ramassera comme une masse de détenus dans une fosse. Ils seront emprisonnés dans une prison. et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera confuse et le soleil aura honte, car l'Éternel des armées règne. Sur la montagne de Sion et à Jérusalem, la gloire sera en face de ses anciens. Je vous avoue que j'ai pas trop l'habitude de parler sur ce genre de texte. Souvent, j'aborde des textes comme la grâce, la personne de Jésus, etc. Et c'est des textes qui vraiment m'interpellent, mais en même temps me font froid dans le dos. Ça me fait froid dans le dos. Les versets 1 à 13 concernent ceux qui ont refusé Christ. 14 à 16, le peuple de Dieu dans la joie. Alors bien sûr, on va commencer par le début. Hein. Le premier verset du chapitre 24 nous met tout de suite dans l'ambiance. Une ambiance, il faut dire, apocalyptique. « Voici que l'Éternel dévaste la terre et la dépeuple, il en bouleverse la face et disperse ses habitants. » Les habitants. Jusqu'à maintenant, Ésaïe s'était contenté de prédire des jugements pour Juda et ses voisins. Dans le premier verset, le prophète annonce que l'Éternel détruira le monde entier. Le monde entier. Les versets 3 à 6, verset 11, verset 13, verset 17 à 21, nous décrivent une terre qui est totalement, mais dévastée. Pillée. Totalement pillée. Une terre qui est dans le deuil. Une terre qui est épuisée, qui est profanée par ses habitants, qui enfreignent d'ailleurs les lois de Dieu, qui altèrent ses prescriptions. Et le prophète nous décrit des habitants remplis de culpabilité, remplis de remords, consumés par les remords. Consumés par les remords. Parce qu'à un moment donné, il faut bien se rendre à l'évidence. À un moment donné, les gens vont se dire, et commencent certainement à se dire, mais comment on peut en arriver là? Qu'est-ce que j'ai fait, ou qu'est-ce que j'aurais dû faire pour éviter qu'on en soit où on en est là? C'est pas possible. Mais comment a-t-on pu? Et ce remords-là, nous-mêmes, en tant que chrétiens, on le vit aussi. On peut, bon, pas nécessairement sur la politique, mais ne serait-ce que quand on voit les dégâts de la pollution, etc., on peut se dire, mais comment a-t-on pu en arriver là? Mais comment je dois faire? J'ai une voiture, il faut que je m'en serve. Est-ce que j'y suis pour quelque chose? Est-ce que... Vous voyez, il y a une confusion qui est là. « Fini la joie et l'allégresse, dit le prophète. Les gens se trahissent les uns les autres. Ils sont effrayés, ils sont terrorisés. Il n'y a aucun moyen d'échapper à cette terre qui titube comme un homme ivre. J'habite en face le bar des marronniers. Je sais ce que c'est, quelqu'un qui titube. J'en vois tous les jours. J'ai même un voisin qui, en ce moment d'ailleurs, il n'est pas là. Et souvent, il arrive, il tombe dans l'escalier, il se relève. On a l'impression ici de relire Genèse chapitre 19, Noé et sa famille. Vous vous souvenez, Noé? Même le bateau dans lequel il a été sauvé, avec sa famille, a disparu. Même le bateau. Tout a été détruit. La seule chose qui soit restée, c'est quoi? C'est finalement son obéissance à Dieu, son investissement pour Dieu. Le fait d'avoir cru Dieu, quand Dieu lui a dit, écoute, tu vas faire une arche, alors qu'il n'a jamais plu, il n'y a pas d'eau. Il a obéi. Verset 18, comme dans l'histoire de Noé, les écluses d'en haut s'ouvrent, les fondements de la terre sont ébranlés. C'est le jour où tout s'arrête, tout stoppe. Le jour, quelque chose qui devrait nous réjouir aussi, le jour de la fin des injustices, la fin des mensonges, la fin des égoïsmes. C'est le jour de la fin des orgueils répétitifs. Des gens qu'on voit passer à la télé et qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Que ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est la réussite, c'est leur réussite. Fini les sentiments de toute puissance. Fini toutes ces choses qui nous pourrissent la vie. Et Ésaïe nous brosse un tableau où aucune sphère de la société n'est épargnée. Aucune sphère. Verset 2, il en est du sacrificateur comme du peuple. Les religieux sont concernés. Ils ne sont pas épargnés. Ils seront accablés au même titre que le peuple. Leur religion ne les épargnera pas. En fait, leur religion, elle ne sert à rien. Au jour de Dieu, en ce jour-là, la religion ne sert à rien. La laïcité non plus, d'ailleurs. Un autre prophète de la Bible, le prophète Amos, nous donne un petit peu des détails sur la religion, entre autres, pas que sur ça. Au chapitre 5, verset 18, il nous dit « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel ?» Point d'interrogation. Malheur à ceux qui désirent ce jour-là. Mais qu'attendez-vous de ce jour-là ? La question est posée. Qu'attendez-vous du jour du Seigneur ? Qu'est-ce que nous attendons de ce jour-là, nous-mêmes ? Peut-être c'est bon de se poser cette question. Une question que j'ai posée hier matin aux détenus dans le culte à Grasse, à la prison. Je vous dirai après. Et il dit, il sera ténèbres et non lumière. Il en sera comme d'un homme qui fuit devant le lion et qu'il rencontre un ours. Donc tu fuis devant un lion, mais tu vas rencontrer un ours. C'est pas mieux. Et puis, qui gagne sa demeure, donc qui part en courant chez lui, mais qui fuit, il rentre à l'endroit où il va se sentir le plus en sécurité, appuie sa main sur la muraille et le serpent le mord. Aucune sécurité, impossible d'échapper, impossible de se reposer, impossible de se sentir en sécurité, où que tu sois. Ça doit être terrible quand même comme sentiment. Tu sais que t'es perdu, quoi. N'importe où tu vas être attrapé. Et il dit, le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière ? N'est-il pas obscur et sans éclat ? Et puis c'est Dieu qui parle. Je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos cérémonies. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Vos sacrifices de communion et les veaux gras, je ne les regarde même pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute même pas le son des luttes. Plus rien ne plaît à Dieu à un moment donné, parce que les mobiles sont mauvais. Et au chapitre 8, verset 10, il dit « Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sac tous les reins et je rendrai chauve toutes les têtes. » Bon, pour l'instant, j'ai encore un peu du temps devant moi au niveau de la calvitie. Mais il n'y a pas moyen d'échapper à ce jour-là. On revient à notre chapitre 24. Du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante. Quel que soit le sexe, quelle que soit la condition sociale, tout le monde sera logé à la même enseigne. Fini le favoritisme. Féminisme, tout ce qu'on peut imaginer, toutes les idéologies qui se propagent dans notre monde, dans notre société, tous les acquis, tout ce qu'on aimerait défendre comme droit, etc. C'est fini. Même le piston, c'est fini. Les clans, c'est fini. Et puis, il continue en disant, du vendeur comme de l'acheteur, les commerçants, ils chercheront plus à sauver leur marge. Ils chercheront à sauver leur peau. C'est terminé les calculs. La comptabilité est terminée. Tout sera devenu secondaire. C'est-à-dire tout ce que dans notre monde nous voyons aujourd'hui comme primordial va finir par devenir, au jour de Dieu, comme secondaire. Toutes les choses sur lesquelles les hommes ont misé, toute leur vie, toute leur existence, les causes auxquelles ils ont adhéré, les causes pour lesquelles ils se sont battus, les causes pour lesquelles ils ont donné de leur vie, de leur temps et de leur argent, toutes ces causes-là, terminées. Vous imaginez un peu le désarroi ? Quand tu as passé ta vie à construire quelque chose et qu'au bout, Il ne reste plus rien. Aujourd'hui, dans notre pays, on est relativement fiers de ce que nous avons créé comme démocratie, comme principe laïque, etc. On en est fiers. Mais on voit, en même temps, que tout ça tient par un fil. Et que ce fil est peut-être en train d'être coupé. Et là, on se dit, mais putain, on s'est battu. Et puis on cite les gens célèbres qui ont été là derrière et qui sont morts pour les causes. Et finalement, en l'espace de quelques années, de quelques mois, de quelques semaines, d'une journée, tout s'écroule. Et nos principes, ils sont où? Et puis on descend dans la rue. On veut les défendre. Mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas me voler ce principe-là qui m'a fait vivre, pour lequel j'ai voué ma vie. Et puis les gens, tu les vois à la télé en disant, avec un sourire de 2 heures moins le quart, mais un sourire un peu forcé, en disant, même pas peur. Même pas peur. Même pas peur. Ben oui, t'as peur, arrête de dire que t'as pas peur. T'as la trouille, oui. Et c'est ça. Et il continue, vendeur comme acheteur, prêteur comme l'emprunteur, les créanciers comme du débiteur, les banquiers, les emprunteurs seront pillés. Plus de comptabilité, plus de Bruxelles, plus de FMI. Le prix de l'immobilier, le rachat des crédits, ben à ce moment-là, on s'en fichera. C'est peut-être une priorité pour moi aujourd'hui, parce que peut-être qu'il faudrait que je voie faire revoir le crédit de mon appartement, mais à ce moment-là... C'est même pas la peine, hein. On n'y pensera plus à ça. On s'en fichera royalement. Il y aura des soucis bien plus importants. Le verset 4, qui s'adresse particulièrement au gouvernement et aux décideurs de ce monde, quel que soit leur parti, hein, ils dépérissent les gens haut placés. Républicains, comme il dit mon ami aux États-Unis, démocrates, socialistes, front de gauche, de droite, l'UDI, UMP, machin, toutes les idéologies, tout, allez, les politiques, tout ça anéanti. Même ceux qui pensaient être à l'abri vont se sentir en insécurité totale. Ils vont dépérir. C'est ce que le prophète dit. Et le prophète Amos fait aussi encore un état des lieux qui ressemble beaucoup à notre époque. En fait, rien n'a changé. Hein. Ils disent ils ont horreur de celui qui parle sincèrement. Aussi parce que vous avez foulé l'indigent. Parce que vous avez pris du blé, de lui du blé en présent. Vous voyez, les dessous de table. Vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habitez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Car je le sais, vos crimes sont nombreux et vos péchés énormes. Vous opprimez le juste, vous le rançonnez. Et vous, à la porte, vous évincez les pauvres. Je voyais dernièrement une photo en double avec un homme politique à gauche qui a été pris... pour des détournements de fonds, etc. Et à côté, une grand-mère qui est passée en tribunal parce qu'elle prenait les choses dans les poubelles. C'est un supermarché. Serge, qui n'est pas là aujourd'hui, il me racontait qu'il a travaillé dans un supermarché et puis il s'est aperçu que derrière la grille, il y avait les gens qui venaient chercher à manger, quoi. Et lui, donc... quand il allait jeter des trucs, au lieu de les mettre dans la poubelle, ben, il leur faisait passer. Et il a été vu. Et il est arrivé, donc, le directeur, avec le chef de magasin, etc. Ils ont voulu le prendre sur le fait, quoi. Et qu'est-ce que tu fais là? Ouais, ben, je leur donne à manger, ils ont faim. Mais non, mais tu n'as pas le droit, là. Et ils l'ont viré. Et lui, il leur dit, mais écoutez, mais c'est un honneur si vous me renvoyez pour ça. Il a été viré de son boulot à cause de ça. Mais bon, ça c'est le monde dans lequel on vit. Hein. Le moment de rendre des comptes arrive, la période de crise va s'intensifier, la souffrance, c'est la fin. Alors c'est dommage, ça me fait presque, je me dis, presque je culpabilise de brosser un tableau tellement négatif, mais c'est vrai que cette situation ressemble tellement à la nôtre. La terre a été profanée par ses habitants. Une autre traduction dit « La terre a été souillée sous les pieds de ses habitants ». C'est la course. Nous vivons dans un monde de course. Et pourquoi ? Quelle est la raison ? La réponse, elle est très claire. Car ils enfreignent les lois, altèrent les prescriptions, rompent l'alliance éternelle. On est tous choqués par la destruction de la planète. C'est pour ça qu'on s'engage aussi dans certaines causes. Nous, avec l'association alternative, on a parlé de respect de l'environnement. On s'engage dans ces causes-là, et c'est normal, c'est juste. On est tous choqués par son réchauffement, le pillage qui est organisé, la disparition des milliers d'espèces. Ça nous choque. Mais Ésaïe, tout comme Amos d'ailleurs, nous interpelle surtout sur la pollution spirituelle. C'est sur ça que ces prophètes-là mettent l'accent. En fait, notre risque est de prendre l'habitude de ces choses-là. On peut petit à petit se laisser aller dans une sorte de compromis, parce que de peur de devenir trop légaliste, trop pointilleux, trop culpabilisant. Alors, quelque part, on essaye de trouver un moyen d'entente avec les choses de la société, ce qui est normal. Mais au bout du compte, on dilue. On dilue la réalité de la parole de Dieu. On dilue ce que réellement elle nous dit. J'ai pas envie de faire ça. Apocalypse 3.20, souvent mal utilisé, hein, sorti de son contexte, car le Seigneur n'interpelle pas le non-croyant, mais il s'adresse à son peuple, à son Église d'ailleurs. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Souvent, on cite ça aux non-croyants. On dit « Voilà, le Seigneur se tient à ta porte. » Non, non, là, il est en train de taper à la porte du peuple de Dieu. Bref, on lit beaucoup de souffrances dans ce texte. C'est déconcertant. Mais je me dis que si les hommes prenaient en compte, finalement, toutes les données de Dieu, on rêve. On est déconcerté par la souffrance. Mais imaginons que demain, l'humanité entière décide de suivre et de mettre en pratique les paroles de Jésus. Vous ne croyez pas qu'il y aurait beaucoup moins de souffrance d'un coup ? Pourquoi on ne le fait pas ? On va me dire, oui, mais bon, Jésus, les gens n'y croient pas. Oui, mais bon, ok, nous on y croit, on croit qu'il est notre sauveur, etc. Mais quand même, son idée, son message, même si c'est celui du seul chemin, etc. Mais imaginons que simplement on prenne les béatitudes. Et quoique là encore, on est embêté parce que c'est difficile de dissocier son message de salut avec son message social. Vous voyez ce que je veux dire ? Et finalement, je me demande si notre société ne fait pas semblant de ne pas entendre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que beaucoup de gens ont très bien compris de quoi il s'agit. Mais ils font semblant de ne pas avoir compris. Plus ça va, et plus je me pose cette question. Et parfois, on est là en train de se dire, mais comment leur expliquer, mais quand même. Et quelque part, je me dis, il y en a qui font semblant. Hier soir, sur Facebook, ma tante, ma marraine, qui est chrétienne d'ailleurs, c'est la seule chrétienne de ma famille, hein, avec moi, et ma cousine aussi, elle met une photo, enfin un dessin avec une parole de John Piper, qui est un théologien très connu, qui est calviniste d'ailleurs, c'est-à-dire qui ne croit pas à la perte du salut, et puis en dessous, un verset qui va presque dire que si tu pèches, ben tu vas, ce péché-là, si tu t'y laisses aller, tu vas finir par mourir et perdre ton salut. Et moi, en dessous, j'écris non, je suis pas d'accord. Moi, personnellement, je suis comme John Piper, et mettre John Piper en même temps que ce verset, et en donnant une explication qui n'est pas celle de John Piper, je me dis, je suis pas d'accord. Et je lui écris, je lui dis, écoute, ma reine, quelqu'un qui est vraiment né de nouveau, quelqu'un qui a cru, qui est né de Dieu, qui a reçu le Saint-Esprit, ne peut pas perdre son salut, parce qu'il est un enfant de Dieu. Il ne peut pas devenir un autre enfant, hein, comme un papillon. Quand tu es passé d'une chenille à un papillon, il ne peut pas redevenir chenille, c'est pas possible. On peut tuer le papillon, on peut faire ce qu'on veut du papillon, on peut le mettre sur un clou, hein, mais on peut pas lui enlever son statut, ce qu'il est. Et donc elle me dit « Oh, merci beaucoup, j'avais pas pensé à ça, etc. » Et puis je vois ce matin, en me levant, un commentaire d'un gars qui écrit « Moi, Je n'ai jamais péché et je suis jamais allé à la chasse. Et moi, sur mon mur, c'est vrai que j'aime bien une série télé aux États-Unis avec des chasseurs. Et il m'est arrivé de mettre des photos. Bah, c'est des gars qui ont des longues barbes et tout. J'aime bien leur look. Bref. Et donc, il a dû aller sur ma page et voir que je n'ai jamais péché. Je dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir bien répondre à ce gars-là? C'est un chanteur, je suis allé voir sur Internet. Un musicien, un guitariste, qui a joué avec les plus grands musiciens. Je te donnerai d'ailleurs le nom, si tu veux. Des guitaristes, guitare électrique, qui a joué avec les plus grands musiciens en Angleterre. Un gars qui est un monument, qui est à, il y a maintenant 60 balais, hein. Mais, hein? Il me semble, c'est Prit. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il vient faire là avec ma marraine? J'en sais rien. Elle connaît ce gars-là. Et en dessous, j'ai cherché, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui mettre? Et puis après, j'ai pensé à un chanteur chrétien. J'ai pensé à Johnny Cash. J'aime bien ce chanteur, et c'est un gars qui s'est converti, qui faisait aussi les prisons, qui chantait dans les prisons. Et j'ai trouvé donc une citation de ce Johnny Cash qui dit, il y a beaucoup de choses pour lesquelles j'ai été accusé pour rien, mais il y a beaucoup de choses que j'ai faites et que je n'ai pas été pris. Et je l'ai mis juste en dessous, quoi, en mettant Johnny Cash. Quelque part, c'était ma réponse. Mais voyez, cette mentalité, ce monde dans lequel on vit, c'est un déni de dire « moi, je n'ai jamais fait de mal ». C'est un déni de ce qu'on est. On le sait qu'on est. On le sait qu'au fond de nous, on a eu des mauvaises pensées. On le sait, les gens le savent. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui ont compris qu'est-ce que c'est l'Évangile. Ils ont compris l'importance de l'Évangile. Ils ont compris le message de l'Évangile. Ils font semblant. Ils font semblant de ne pas avoir pigé. Mais ils l'ont compris. En tout cas, on revient à notre texte. Ésaïe a vu un monde presque dépeuplé. Le vin doux est en deuil, la vigne dépérit, tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. L'allégresse des tambourins a cessé, le bruit des amusements a pris fin. L'allégresse de la cithare a cessé, on ne boit plus de vin en chantant, les liqueurs sont amères aux buveurs. Bien sûr qu'on peut se dire au jour d'aujourd'hui, en vivant sur la Côte d'Azur, que ces versets ne nous concernent pas. Le Gotha Club à Cannes sera ouvert cet été. Il est d'ailleurs ouvert encore aujourd'hui. Les gens font des fêtes. Je sais que on a un ami en commun, Vincent, que j'aime beaucoup, mon ami, hein, qui venait il y a quelques années dans notre église, qui est inscrit dans le club des cinquantenaires. Et puis, moi, j'attends encore un peu quand même. Mais et donc, ils font des fêtes, etc. Donc, on a l'impression que ces choses-là, c'est pas pour nous, ça ne nous concerne pas. Mais dans chacun des quatre chapitres de l'Apocalypse, que je vous ai dit, de 24 à 27, il est question d'une ville en ruine. En fait, il y a Ésaïe 24, verset 10, 25, verset 2, 26, verset 5 et 27, verset 10. Peut-être qu'Ésaïe souhaitait représenter une image composée de villes qui s'opposent à Dieu pendant les diverses périodes de l'histoire. Peut-être que chaque ville représente des périodes aussi. Il y a Babylone, il y a Ninive, il y a Tyr. Et à Jérusalem, par exemple, il nous dit qu'un reste racheté du peuple survivra et donnera la gloire à Dieu. Alors il y a un reste d'Occident, verset 14, « Mais ceux-ci élèvent leur voix, ils poussent des acclamations de l'Ouest, ils poussent des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. » Puis après au verset 15, il y a un reste qui vient de l'Orient, il dit « Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière. » Le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. Puis après, il y a un reste qui est issu des extrémités de la terre. Verset 16. De l'extrémité de la terre, nous entendons des chants. Honneur au juste. Mais ce reste sera très petit. C'est écrit au verset 6. La malédiction dévore la terre, ses habitants portent la culpabilité. C'est pourquoi les habitants de la terre sont consumés et il ne reste qu'un petit nombre d'hommes. À part ce petit nombre d'hommes, et de femmes, hein, bien entendu, il sera impossible à la majorité d'échapper au jour de l'Éternel. Le terme employé par le prophète est « en ce temps-là », au verset 21. « En ce temps-là », c'est employé aussi au verset 27, au chapitre 27, verset 1. l'armée d'en haut, c'est-à-dire le diable, ces gens, ces anges déchus, hein, partageront le même sort que les habitants de la terre. L'apôtre Paul nous les décrit à nous, chrétiens, hein, il nous les décrit à nous en tant que chrétiens. Il nous dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Pourquoi je dis ça? Parce que le prophète Ésaïe apporte cette précision. On les ramassera comme une masse de détenus dans la fosse. Ils seront emprisonnés dans une prison et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Alors, moi je suis prémillénariste, je pense que ces jours-là, c'est 1000 ans. Il y en a qui pensent autre chose, ça c'est ma pensée. Ces versets qui se rapportent à ceux de l'Apocalypse, rappelez-vous. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Puis versets 9 et 10, c'est au chapitre 20 hein, de l'Apocalypse. Ils montèrent à la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. La scène est impressionnante, elle n'est pas du tout attrayante, hein, faut dire ce qui est. C'est peut-être pour ça qu'on l'aborde peu. Mais en étudiant les livres finalement apocalyptiques, hein, faut dire que on n'ose pas trop le faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont un peu brûlés les ailes là-dessus. Hein. C'est presque dangereux d'aller trop loin dans l'interprétation. Il y a un théologien qui dit que pour les étudier correctement, il nous faut veiller à ne pas tomber dans l'abîme des spéculations fantaisistes, ni dans les banalités historiques. Il nous faut de l'audace, de l'humilité et de la foi. C'est-à-dire oser ce que Dieu veut nous révéler tout en refusant de vouloir savoir autre chose que ce qu'il nous révèle. Ce livre est sous haute tension. Certains chrétiens en ont été remplis d'énergie, mais d'autres se sont électrocutés. Ça nous encourage à méditer sur la fin. Et puis le verset 23, on arrive presque au bout, hein, il passe presque inaperçu au milieu de tout ça, car l'Éternel des armées règne. Car l'Éternel des armées, Yahvé Tsebaoth, 282 fois dans l'Ancien Testament. Dans 1 Roi, au chapitre 22, il nous est dit, « Et Miché dit, écoute donc la parole de l'Éternel, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. » En fait, le titre de l'Éternel des armées, finalement, révèle qu'il est un véritable chef d'armée d'Israël, c'est-à-dire il est pris d'une manière très littérale, et puis, il est aussi en même temps l'armée des anges qui combattent en faveur de son peuple. C'est ça qui nous intéresse à nous en tant que chrétiens. Dans la Bible, ce qui se passe sur la terre, c'est souvent collé à ce qui se passe dans le ciel. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, Moïse fait le tabernacle selon le modèle que Dieu lui avait montré dans les cieux. Exode 25. Ce qui se passe sur terre est souvent l'image de ce qui se passe au ciel. Il y a une connivence entre les deux. En tout cas, l'Éternel des armées souligne que les anges sont avec ce reste, avec ce peuple qui lui appartient. Ils sont avec nous et la Bible dit qu'ils sont deux fois plus nombreux que les démons. Dans 1 Jean, il dit « Celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde aussi ». Moi, ça me fait du bien de savoir ces choses. L'Éternel des armées règne, moi ça m'encourage. Au milieu de tout cette désolation, de savoir que Dieu règne, aujourd'hui il règne, quoi qu'il arrive, même avec ce qui se passe, même avec ce qu'on voit à la télévision, même avec ce qu'on reçoit dans nos boîtes e-mails, qui parfois est complètement décourageant, qui nous fait peur parfois, l'Éternel règne. Et l'Éternel des armées angéliques délègue des anges pour qu'ils viennent à notre secours en tant que chrétiens. C'est ce que nous dit clairement l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il nous dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» C'est quand même fantastique de lire ces choses-là. Et au milieu de toute cette misère, Au milieu de toute cette souffrance, au milieu de tout ce désarroi, de toutes ces angoisses, le prophète écrit « Mais ceux-ci élèvent leur voix, c'est ce qu'on fait ce matin. Ils poussent des acclamations. De l'ouest, ils poussent des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière, le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, dans les îles de la mer, de l'extrémité de la terre. Nous entendons des chants. Quels chants ? Honneur au juste. Nous entendons des chants. Honneur au juste. C'est fabuleux quand même. Je veux dire, rien que cette phrase, cette petite phrase, honneur au juste, au milieu de ce chapitre qui est catastrophique. Mais on remarque bien que tout à coup, le prophète, il a cette vision apocalyptique. Il voit tout ce fracas, toute cette catastrophe. Et puis, il voit ces gens en train de chanter. Et puis, ils sont en train de chanter honneur au juste. Et puis, tout à coup, il ressent ce que va ressentir le monde privé de ce juste. Je cite le verset 16, écoutez bien. « Mais moi, je dis, le prophète, d'un coup, il doit être pris de l'angoisse de voir ce qu'il voit. Mais moi, je dis, je suis perdu, malheur à moi. » Ça vous rappelle rien ?« Je suis perdu, malheur à moi. » Vous savez, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais dans Romains 7, écoutez bien, au verset 14 et 15, l'apôtre Paul dit, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel. Je suis vendu au péché, car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas, mais ce que je hais, voilà que je le fais. » Et au verset 22-23, il dit, « Mais je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Et au verset 24, ce même apôtre Paul dit, « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Alors, avant d'en arriver à être délivré de ce corps de mort, l'apôtre Paul est obligatoirement passé par les mêmes paroles que le prophète Ésaïe. « Mais moi je dis, je suis perdu. » Je suis perdu, malheur à moi. C'est la question que je me pose. Est-ce que moi, je suis passé par là? Aujourd'hui, on peut soupirer pour être délivré de notre corps, parce que notre corps nous rend captifs à la loi du péché, parce que nous péchons. Hier, c'était marrant, parce qu'avec les détenus, je parlais d'ailleurs de ça. Pas de cette manière-là, je ne suis pas rentré dans tous les détails, mais... Et je leur ai dit, mais vous savez... On pêche tous, hein. Et puis j'étais avec le pasteur de l'église d'Antibes. J'ai dit même, Patrick, là, il est pasteur, mais il pêche. Ah, ils l'ont regardé. Ah ouais? Ah ben oui, hein. Tous. Mais la grande question, c'est est-ce qu'il y a eu un moment dans ma vie où j'ai eu le sentiment d'être perdu? Je suis perdu, malheur à moi. Qui est ce juste? Poser cette question. Hein. L'apôtre Paul nous donne la réponse lui aussi, au verset 25 du chapitre 7, il nous dit, verset 24, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Verset 25, réponse, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et dans sa vision de l'Apocalypse, le prophète Ésaïe écrivait, il entendait ses chants, des extrémités de la terre. Ça venait de tous les sens. Et ce même chant que tous nous chantons, honneur au juste. Ce juste. L'apôtre Pierre, dans sa prédication, il a dit, mais vous avez renié le saint et le juste. Et vous avez demandé comme une faveur qu'on vous remette un meurtrier. Le juste d'Ésaïe 24, c'est vrai que c'est Jésus. Moi, je pense que c'est Jésus. Mais par extension, ce juste, c'est toi, c'est moi. Vous savez, il n'y a qu'une question qu'il faut poser à la limite, hein, aux gens. Je l'ai posée hier matin aux détenus. J'ai dit, imagine que tu te retrouves devant le portail du ciel et que Dieu vienne te dire, mais pour quelle raison je te ferai rentrer chez moi. Chez moi, c'est sain, c'est nickel, il n'y a pas de péché, il n'y a rien, tout est impeccable. Pourquoi toi, je te ferai rentrer? Pour quelle raison? C'est une bonne question. Parce que tu as été sympa, tu es allé en prison, après tu t'es rattrapé, tu as fait du bien de partout autour de toi, parce que tu es allé à l'église tous les dimanches, etc. Parce que la seule bonne réponse, la seule réponse qui prouve que quelqu'un a compris l'évangile, c'est qu'il te réponde, mais parce que Jésus, il est juste et il a payé pour moi. Et moi, d'injuste, je suis devenu juste. C'est la seule réponse, il n'y en a pas d'autre. Tu peux poser toutes les questions que tu veux. Si tu n'as pas Jésus, tu n'entres pas au ciel. C'est le billet. Quand tu donnes ça à quelqu'un, tu lui donnes son billet. Alors, il peut le jeter, il peut le foutre à la poubelle, mais tu lui donnes le billet d'entrée pour entrer au ciel. Michel nous a dit que nous avons été rachetés. Nous avons le cœur droit. Et nous avons été justifiés par le juste. Je pense que ce qu'on peut retenir de ce chapitre, c'est honneur au juste. Honneur au juste. Voilà ce que Ésaïe entend dans sa vision de l'Apocalypse. Il entend honneur au juste. Dans l'Apocalypse, c'est pareil. Tout est centré sur Christ. C'est la catastrophe. Mais en fait, c'est pourquoi? C'est pour nous faire du bien à nous qui avons cru en Jésus-Christ. C'est pour nous faire comprendre quelle est la solution. Qui est celui qui peut nous sauver? Qui est celui qui peut nous faire rentrer dans son ciel, dans le ciel de Dieu? On va prier. Seigneur, merci parce que nous sommes justes, non pas par nous-mêmes, mais parce que toi, tu nous as rendus justes. Ta parole dit « Le juste vivra par la foi ». Nous voulons vivre par la foi, Seigneur. Nous croyons que nous sommes justes, non pas à cause de nous, de nous-mêmes, de ce que nous pourrions faire de bien, mais parce que toi, le juste. Tu es mort sur la croix pour nous. Seigneur, nous avons une vision de ce prophète qui fait froid dans le dos. Ça nous fait peur. Peut-être est-ce là aussi pour nous rappeler notre responsabilité en tant que chrétien, du message que nous avons à partager autour de nous. Seigneur, peut-être que rien qu'en le vivant, c'est déjà le partager. Rien qu'en étant là ce matin, c'est déjà le partager autour de nous. Seigneur, aide-nous aussi à... Donne-nous le courage, dans certaines circonstances, de pouvoir demander aux gens autour de nous s'ils ont ce billet d'entrée dans ta présence. Seigneur, nous avons besoin de ton courage. C'est pas évident, parfois, de le partager. Et je te prie pour mes frères et sœurs ici ce matin. Je te demande de les bénir, de les garder, de les protéger, de leur donner vraiment le courage et l'enthousiasme pour pouvoir partager ce message qu'ils sauvent. Merci encore pour ce prophète qui nous fait profiter d'une vision, certes difficile, de ce temps où tu vas tout arrêter, où tu vas dire stop. Mais merci parce qu'au milieu de tout ça, Seigneur, il y a des joyaux. Nous savons que ton peuple est là, que ceux qui ont accepté ce que tu es, ce que tu as fait, sont dans ta présence, maintenant et pour l'éternité. Amen.